Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Alain Fleischer, qui publie deux livres. Prolongation, chez Gallimard, et le carnet d'adresse au seuil. Dans la ville de K, on en vient à se demander ce qu'est réellement devenu le réel, sous la plaisanterie générale du monde, parmi le vacarme d'un esclavement généralisé, ou même à oublier qu'un prétendu réel existe sous une autre forme que ce qui a suffi à faire rire, car le rire n'est-il pas une réalité suffisante ? N'est-il pas la trace ? Le reste d'un réel qui se soustrait, qui se refuse, éternellement insaisissable. Du réel, il ne nous reste que d'en rire. Avant que le rire, qui est cet abandon volontaire et joyeux à l'oubli, ne soit lui-même oublié, effacé de toute mémoire humaine. Y a-t-il meilleure image de l'enfer qu'un monde où le rire n'existerait plus, où plus rien ne susciterait le rire, pas même celui de Satan. Vous êtes présent, Alain Fleischer, dans cette rentrée littéraire avec deux livres, les deux livres que je viens de citer, deux livres qui en cachent peut-être d'autres, car je crois qu'on annonce aussi des livres sur le cinéma.
C'est exact, c'est un recueil d'essais, d'articles divers publiés depuis une dizaine d'années sur le cinéma et la photographie, avec certains à caractère un peu théorique, d'autres plus littéraires. Tout ça sous le titre général « Les laboratoires du temps », car effectivement, c'est le temps qui régit ces deux mondes de l'image, l'image fixe ou l'image en mouvement. Et voilà, tout ça doit être publié prochainement aux éditions Galade.
Alors, vous êtes écrivain, donc, mais aussi cinéaste, on le sait bien, photographe, directeur du Studio National d'Art Contemporain du Frénois. Et comme si ça ne suffisait pas, vous devenez également critique d'art ou historien d'art, puisqu'il y a également un petit livre que j'ai vu passer sur Schiele.
C'est exact, vous êtes vraiment très attentif, car c'était une publication discrète, voire même confidentielle. C'est une collection qui m'a beaucoup séduit dans son projet, qui consiste à parler en peu de pages, hein, une quarantaine de pages, du dernier tableau d'un peintre. J'aimais beaucoup cette idée de la dernière fois, du dernier tableau, qui peut être aussi bien une œuvre complètement anecdotique, accidentelle, ou une somme, un testament. Dans le cas de Schiele, c'est assez particulier, puisque Schiele est mort à 27 ans, très brutalement, de la grippe espagnole, et qu'en même temps qu'il meurt, c'est tout un monde qui s'effondre. C'est le monde de l'Empire austro-hongrois, c'est la fin, c'est la toute fin de la Première Guerre mondiale. L'Autriche-Hongrie se disloque, des pays se dotent de nouveaux régimes. Voilà, donc j'étais très, je me suis senti très, très attaché à ce personnage, sa fulgurance, ses obsessions, sa vie, même sa vie privée, qui est extra, tout à fait extraordinaire, puisque, juste pour citer un passage, il entraîne sa sœur de 13 ans, quand lui-même en a 17, à refaire le voyage de noces de leurs parents. Vous voyez le programme.
Mmh. Est-ce qu'il ne faut pas avoir plusieurs vies pour faire tout ce que vous faites ?
Écoutez, j'organise mon temps comme si j'étais différentes personnes. Je pense qu'on est tous différentes personnes en même temps. Je suis même différentes personnes en fonction de ces disciplines qui m'attirent à elles. Et je pense que l'écrivain que je suis est une personne assez distincte du cinéaste et que j'aime pas forcément les films que je fais. En tant qu'écrivain, j'aime pas les films que fait le cinéaste et réciproquement. Mais le problème, c'est simplement de ne pas renoncer. On a tous de nombreuses possibilités. La plupart des gens renoncent, en choisissent une sous la pression sociale. La société veut une personne, une unité, une identité. Quand on résiste à ça, on peut être plusieurs et on peut avoir plusieurs vies.
On peut jouer les prolongations ?
Alors, oui, les prolongations sont un deuxième temps de la vie après que soit écoulé le temps réglementaire, je dirais. Dans le cas de ce livre auquel vous faites allusion par son titre...
Qui est un roman. Hein.
C'est un roman, oui, c'est un roman.
Un gros roman même,
comment
500 pages.
Oui, à peu près, oui. Mais pourquoi faire court ? C'est vrai.
Non, que... je le mentionne d'autant plus que vous nous aviez habitués depuis quelques années à publier quand même un livre à chaque rentrée.
Oui.
Et bon, généralement, ceux qui produisent chaque année un livre nouveau écrivent des petits livres, des livres de 150-200 pages. Ce n'est pas votre cas.
Non, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas du tout dans mes stratégies. D'ailleurs, je n'ai aucune stratégie. J'ai absolument besoin, quand j'entreprends un projet, un sujet, de l'épuiser, en tout cas à mes yeux. C'est-à-dire d'aller aussi loin que possible dans ce que j'aurais à dire sur un thème. Donc ça donne souvent des livres assez volumineux, en effet. Mais je veux qu'il n'y ait pas de reste, en fait. En tout cas pour moi, que moi je ne puisse plus rien dire. Que le combustible que j'ai mis, auquel j'ai mis le feu, soit brûlé jusqu'aux cendres et qu'il ne reste rien que ces cendres.
Mais si ces livres s'écrivent à cette vitesse, avec ce tempo, vous nous avez expliqué un jour que c'est pour une raison très simple, c'est que vous ne les écrivez pas.
Je ne les inscris pas, disons. J'écris sans inscrire. En effet, je les dicte. Et c'est pour moi un mode de travail, je dirais, miraculeux, puisque en apesanteur, les mains dans les poches, sans travail de la main, sans travail physique, même de l'œil, du regard... donc dans une sorte d'immatérialité de l'écriture. Je n'inscris pas. Et donc pendant tout le temps de la dictée, qui dure plusieurs heures, puisque je travaille par périodes intensives, le texte est virtuel en quelque sorte. Ce que j'écris est latent, comme une image photographique qui serait latente dans l'appareil photo après la prise. Donc pendant des heures, le texte est proféré, il n'est que musical, oral en tout cas, rythmique, avec tout ce que la parole fait ressortir du texte, les assonances, le rythme, les effets prosodiques, la longueur des phrases, etc. Et c'est tout à fait en fin de journée seulement que j'ai besoin que le texte redevienne un objet visible, comme une photographie se révèle dans un laboratoire et redevient une image en noir et blanc, bien le texte aussi devient un système de signes noir sur blanc. Et à ce moment-là seulement, en fin de journée, je peux regarder ce que j'ai enregistré et le texte redevient de l'image ou en tout cas un système de signes.
Mais l'image n'est pas très retouchée
par rapport à la
dictée.
Peu retouchée. Évidemment, la visibilité du texte fait apparaître des choses qui n'étaient pas sensibles au moment de la dictée. Mais si je fais une autre comparaison, par exemple avec le travail du sculpteur en bronze qui coule le bronze dans un moule, je dirais que quand il démoule le bronze, l'essentiel de la sculpture est joué. La forme s'est jouée, l'essentiel... Mais après, il y a un travail de patine, on lime, on use, on frotte, voilà. Ben c'est un petit peu ce qui se passe pour moi avec mes textes. L'essentiel est joué pendant cette longue coulée ou cette longue projection de la dictée. Après quoi, lorsque le texte devient à une matérialité pour moi visible, je peux effectivement le limer, l'améliorer, le parfaire.
Est-ce que la coulée est linéaire ?
Elle est linéaire et assez lente, c'est-à-dire que je dicte en effet sans retour en arrière, sans interruption. Je m'efforce de maintenir une sorte de continuum de la parole dans cette dictée. Voilà, donc c'est assez lent quand même. C'est très différent évidemment de dicter un texte que de le lire. Par exemple, dans la dictée, n'apparaît encore que de façon très approximative la ponctuation, puisque je cherche en même temps la structure de la phrase. Donc, les virgules n'apparaissent pas vraiment, ou elles apparaissent à un mauvais endroit parce que j'ai fait une légère pause, ou les interrogations ou les exclamations. Mais en dehors de cela, effectivement, le texte est joué. Évidemment, pour moi, c'est très différent de le lire après. Quand j'ai à lire un texte à voix haute, d'abord, c'est pour moi beaucoup moins intéressant. Parce que je n'arrive pas à recommencer cet exercice qui a consisté à dire un texte. Le dire pour le faire apparaître, pour le faire naître, pour moi, c'est très stimulant. Ça m'interpelle, ça me sollicite. Je me sens obligé de le faire, ne serait-ce que vis-à-vis de la personne qui saisit mon texte, que je ne peux pas faire attendre. Je ne peux pas lui dire « Attends, je vais prendre un café parce que je suis en panne ». C'est impossible. Il y a une sorte de convocation. Donc tout ça est très stimulant pour moi, alors que de relire un texte on pourrait penser que ça me restitue sa dimension orale et musicale, mais non, là il est définitivement devenu une image et si je me relis, ce qui m'arrive assez rarement, je me relis en silence.
Vous parlez d'images, vous parlez beaucoup d'images, vous dites que ça se développe un peu comme une photographie, mais malgré tout, j'ai l'impression que ça se développe aussi un peu comme une musique. Ce livre, la structure est plus musicale que photographique, il me semble.
C'est vrai, il se développe, vous avez raison, il se développe linéairement comme une musique.
Il y a une ouverture, par exemple. Là, l'ouverture, c'est une seule phrase.
L'ouverture est une seule phrase très longue.
On vous l'a reproché d'ailleurs.
Un critique a relevé qu'elle faisait 65 lignes. Oui. J'avais besoin qu'elle soit longue, non pas par coquetterie ou par une volonté de faire le malin, mais parce que je parle de quelque chose qui fait longueur, justement. Je décris ce que sont les prolongations dans un match, d'un sport. Je ne veux pas le décrire, mais on peut imaginer que, par exemple, ça pourrait être le football. C'est surtout en football qu'il y a des prolongations. C'est un moment où le temps se fait long.
Sauf que là, le football, c'est l'Europe.
Oui, voilà. Le match, c'est un match de l'Europe, en quelque sorte, contre elle-même. Car aujourd'hui, ses propres ennemis sont en son sein, en quelque sorte. Et si je dis que l'Europe joue les prolongations, ça veut dire que jusqu'au moment de fin du temps réglementaire, le match est nul. Donc il y a un match nul de l'Europe contre elle-même. Alors est-ce qu'il faut s'en réjouir, puisque ça voudrait dire qu'il n'y a pas de victoire d'un camp ou d'une Europe contre l'autre. Pour moi, c'est plutôt une sorte d'échec. Mais en tout cas, c'est un entre-deux. Et j'ai ce sentiment très réel que l'Europe en train de se faire a dépassé le temps réglementaire et qu'elle joue des prolongations.
Qu'est-ce qui ouvre la porte d'un livre, Alain Fleischer? Celui-ci, par exemple, prolongation, c'est ce sentiment que vous avez de l'Europe prise dans son étau.
Oui, en effet, je trouve que l'Europe est prise dans son étau et dans ses contradictions. Au moment où on nous décrit l'unification de l'Europe, son élargissement à de nouveaux pays, la disparition des frontières, l'adoption d'une monnaie commune, en même temps, les Wallons veulent se séparer des Flamands, la Yougoslavie a explosé, même les Tchèques et les Slovaques, qui sont des gens extrêmement calmes et raisonnables, se séparent, les Irlandais du Nord sont contre les Irlandais du Sud, les Italiens du Nord se croient supérieurs aux Italiens du Sud, qu'ils appellent presque les Africains, les Catalans sont séparatistes, les Basques aussi, les Corses, les Bretons. Enfin, c'est assez stupéfiant qu'en même temps que ce continent cherche à s'unifier, il y ait autant de divisions, autant de séparatisme, autant de revendications d'identité culturelle, linguistique et autres.
L'Europe, c'est une femme.
L'Europe mythologique est une femme. En tout cas, j'ai besoin que même des thèmes abstraits s'incarnent. Et effectivement, l'incarnation dans une figure féminine est une constante dans mes livres. Elle m'est nécessaire. Notamment d'ailleurs dans un domaine particulier qui est la relation au temps. Et dans ce livre, comme dans d'autres, les femmes sont des représentations, des incarnations différentes de la relation au temps.
Et dans ce livre, prolongation, dans ce roman, donc, le narrateur d'âge moyen, peut-être vous ressemble-t-il un peu, se définit justement par sa fréquentation des femmes, on peut presque même dire des filles, on va peut-être le voir, mais aussi par celle des hommes très âgés.
Oui, c'est exact, y compris d'ailleurs au-delà de, dans l'âge, au-delà du temps réglementaire, c'est-à-dire au moment où les êtres deviennent des spectres et où leur réalité physique et vivante est incertaine. Ça aussi, je pense que c'est une constante dans mes livres. J'ai besoin que le narrateur ait une relation forte, charnelle, je dirais sexuelle, aux femmes, qu'il se révèle lui-même à travers elles, et qu'il ait comme interlocuteur une sorte de sage, d'homme d'expérience. Ce qui d'ailleurs me permet d'éviter dans mes livres, ou en tout cas ça va avec, les dialogues. Mes livres sont très peu dialogués, puisque la parole est entièrement concentrée dans un ou deux échanges entre un personnage qui écoute, en général le narrateur, et quelqu'un qui lui parle. Une sorte de leçon proférée. Dans le livre dont nous parlons, il y a en tout cas des hommes très âgés qui sont... improbables, ce sont de vieux juifs survivants dans cette ville de Königsberg, qui n'est plus Königsberg, qui est devenue Kaliningrad.
Mais dans le nom commence par un K.
Commence par un K, et je préfère d'ailleurs qu'on adopte définitivement le nom de Kantville, ou de Kantgrad, ou de Kant City, puisque c'est la ville où est né, et où a vécu, où est mort Emmanuel Kant. Donc le cas est très présent.
Et qui nous fait penser aussi à Kafka.
Oui, oui, c'est vrai. C'est une ville qui est un peu décalée par rapport à ma géographie coutumière, dont on pourrait dire que Kafka est une figure essentielle, puisque là, je me suis déplacé vers l'Est, vers cette exclave de la Russie actuelle qu'est le territoire de Kaliningrad, en pays balte, séparé désormais du territoire russe par des pays indépendants, ce qui n'était plus le cas, ce n'était pas le cas à l'époque de l'Union soviétique. Maintenant, entre ce territoire russe et la Russie, il y a des pays, les pays baltes, il y a la Pologne, il y a la Biélorussie, donc des pays indépendants. Kaliningrad, le cas, alors lui, est, le cas de ce nom-là est beaucoup moins glorieux, puisque Kalinin était un président du Soviet suprême après la guerre, je crois, totalement oublié aujourd'hui.
Alors, votre narrateur, donc le personnage principal de ce roman, c'est un homme qui est entre deux langues, puisque son métier est de traduire. C'est un traducteur-interprète qui est présent dans cette ville pour les besoins d'un congrès qui semble interminable.
Tout à fait. C'est un congrès qui s'attarde, qui traîne et qui d'ailleurs lui aussi joue les prolongations avec des congressistes même hors d'âge, je dirais, qui ont dépassé eux-mêmes le temps réglementaire. Un congrès où est prétendu se jouer le sort de l'Europe avec des sages, des autorités morales, mais tout cela dans un espèce de ralenti extrême qui fait que ça n'aboutit pas ou que ça devient burlesque ou cocasse, que ça sombre parfois dans le dérisoire, que tout est toujours annulé, reporté. Et en effet, le narrateur croit trouver dans ce poste et dans son arrivée dans cette ville pour ce congrès la situation professionnelle de sa vie. Enfin, l'occasion que son métier soit lié à un grand moment historique, à un événement important. Donc il est en effet entre deux cultures, la Hongrie et la France, avec seulement quelques occasions de traduire. Puisque ça veut dire que soit un Français prend la parole, soit un Hongrois. C'est un congrès où toutes les langues sont représentées. Il y a beaucoup plus d'interprètes traducteurs que de congressistes. Et la population des interprètes traducteurs devient d'ailleurs un groupe social important dans cette ville de K. Il est non seulement entre ces deux langues qui sont ces deux langues de travail, ces deux langues professionnelles, mais entre eux aussi, puisqu'il parle d'autres langues, entre par exemple l'allemand et le yiddish. Quand il a affaire à ces spectres qu'ils croisent parfois dans les rues, il s'adresse à eux dans les deux langues. Et d'ailleurs, quand il pose des questions dans ces deux langues, on lui répond que la réponse n'est pas du tout la même.
Il n'y a pas qu'au royaume de Danemark qu'on rencontre des spectres.
Absolument. À Kaliningrad, on en rencontre beaucoup, encore que la mémoire de l'ancienne identité de cette ville, de Königsberg, qui était la capitale de la Prusse orientale, a été totalement arasée par les soviétiques qui ont tout détruit. Et la ville aujourd'hui ne porte aucune trace visible de l'ancienne identité de la ville.
Donc on ne sait pas vraiment si on est dans la réalité.
Non, et c'est un réel, oui, de surface. Mais d'ailleurs, ce réel étant manipulé par des forces très occultes. Cette ville, dans son identité d'aujourd'hui, elle est en réalité en proie à des pouvoirs comme les mafias, des tractations entre des Allemands qui rêveraient de reconquérir cette ville, des Russes, nouveaux Russes qui sont prêts à tout vendre et des jeunes femmes qui sont prêtes à tout simplement.
Mmh. Donc voilà un homme entre deux cultures, entre plusieurs langues et aussi entre ces vieillards dont nous parlions et ces jeunes filles. Les vieillards m'attirent vers la mort, avez-vous dit dans le lexique nomade publié chez Bourgois à l'occasion de la deuxième édition des Assises internationales du roman. Vous voyez, vous ne croyez pas si bien dire. Vous parliez de sagesse tout à l'heure, mais la mort est là aussi, et elle rôde, de mon point de vue, tout au long de ce roman qui essaye malgré tout de jouer les prolongations.
Elle rôde, oui, elle rôde comme cette fin du temps réglementaire qui est accordée à beaucoup d'événements, y compris à la vie des individus. Alors, dans ce livre, elle n'est peut-être pas le point final. Elle est le moment où commencent les prolongations, dans un au-delà de ce moment, évidemment improbable, mais où encore des choses peuvent se jouer. Et notamment, dans le chapitre qui s'appelle réellement prolongation dans le livre, c'est-à-dire la toute fin, les 80 dernières pages qui font suite aux 300 ou 400 autres, c'est une sorte au-delà de la mort, puisque le personnage s'est probablement fait assassiner par un mafieux, par un voyou, et qu'il est dans une agonie ou dans une prolongation de son existence, dans une activité d'accouplement permanent avec ces figures de femmes qui l'ont accompagné tout au long du temps réglementaire, et qui, là, ne viennent pas se pencher à son chevet, mais viennent s'introduire dans son lit pour maintenir avec lui un petit va-et-vient essentiel à cette prolongation.
Mais dans le temps réglementaire, ces femmes ne sont-elles pas là pour dérégler le temps ?
En effet, puisque chacune a une relation un petit peu aberrante au temps, si on les repasse en revue, l'une d'elles est la compagne de la première passion de jeunesse, et donc elle a avec lui une complicité très rodée, elle connaît tout, et pratiquement leur union, leurs étreintes peuvent reprendre avec des automatismes, et elle représente un temps en boucle. Le temps de la répétition, de la reproduction des actes déjà longuement vécus. Une autre est à l'inverse quelqu'un qui ne se souvient jamais de la fois précédente, du rendez-vous précédent. Donc c'est une femme avec qui, une jeune femme, avec qui tout est toujours à recommencer, rien n'est jamais construit, c'est toujours la première fois. Donc c'est à la fois ça peut être très agréable et très inquiétant de considérer que rien n'est jamais acquis, que rien n'est jamais considéré comme établi. Quant à la troisième, elle a aussi, alors peut-être c'est la plus inquiétante dans son rapport au temps, puisqu'elle est dans une nécessité de fuite de la situation présente, donc du temps présent et de l'espace présent. Il faut absolument pour qu'elle ne soit pas saisie d'une façon fatale dans le présent, qu'elle se projette dans l'avenir. Et c'est une femme qui regarde toujours sa montre, comme si un compte à rebours, comme si un décompte, une minuterie fatale était lancée et qu'elle doit absolument fuir Kaliningrad, fuir les situations dans lesquelles elle est prise, fuir peut-être les êtres sous la contrainte de qui elle se trouve pour avoir une chance de s'en sortir.
Mais ces trois femmes, elles sont à la fois fuyantes, chacune à sa façon, et en même temps toujours là, toujours présentes.
Oui, elles se succèdent sans se concerter. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, le narrateur désire toujours retrouver celle qui n'est pas là. Elle fuit, comme vous dites, et donc, dès qu'elle fuit, elle devient désirable. Et celle qui est présente au moment où l'autre fuit est moins désirable, évidemment, puisqu'elle est là, elle est donc accessible. Et c'est toujours l'autre que le narrateur poursuit. Mais il y a une sorte de relais ou de ronde.
Comment faire pour s'en sortir? Est-ce qu'il faut accélérer le temps? Alors, la marche du temps réglementaire, est-ce qu'il faut accélérer les travaux du Congrès, les faire aboutir, tenter de les faire aboutir?
Je crois que dans le livre, cette hypothèse est exclue, puisqu'ils sont au contraire dans un ralenti extrême qui ne peut que s'aggraver. Les congressistes sont tous plus ou moins mourants, sont des vieillards qui ont toujours des accidents de santé, qui sont transportés dans un hospice, leurs interventions sont toujours reportées. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas, il faudrait changer de temps. Je ne sais pas si on peut parler d'accélération. En tout cas, ce temps-là, le temps dans lequel évoluent mes personnages, est une sorte de temps déjà presque mort. Pas tout à fait un temps mort, mais un temps mourant, je dirais.
On a dit, Alain Fleischer, que le narrateur de votre roman Prolongation, qui est publié par Philippe Solers dans sa collection L'Infini chez Gallimard, était entre deux cultures, entre de très jeunes femmes et de très vieux messieurs. Mais il est aussi, on l'a vu, entre la mémoire et l'oubli.
Oui, en effet, il est dans un lieu dont le passé est fascinant, cette ville de Königsberg, mais qui est totalement étouffée sous la ville actuelle de Kaliningrad. Et le problème, c'est de savoir quelles sont les forces qui pourraient opérer une sorte de retour en arrière. Alors évidemment, les gens qui sont impliqués dans ces désirs ont des motivations très contradictoires. Les Allemands nourrissent, je pense, le rêve d'une restitution de Königsberg à l'Allemagne, et à cette rêverie de l'ancienne Prusse. Les Juifs qui ont été victimes dans cette Allemagne du pire, eux aussi ont un envie de retour en arrière, mais en même temps avec une suite différente. Et eux, ils aimeraient qu'on puisse revenir en arrière. Eux, ce sont des habitants de la vieille Königsberg. Ils ne sont pas à l'aise dans Kaliningrad. Mais en même temps, ils aimeraient que la suite, après ce retour, ne soit pas la même que celle qu'ils ont vécue. Donc c'est vrai qu'il y a une lutte entre mémoire et effacement, entre mémoire et oubli. Et l'extrait que vous avez lu en ouverture, qui parle du rire comme aussi une force d'oubli ou une force d'effacement, est très présent. Alors là, réellement, non pas dans une fiction romanesque, mais à Kaliningrad, on rit de tout. Tous les groupes sociaux font l'objet de blagues particulières. Et c'est une façon d'oublier, d'effacer, que de rire.
Entre mémoire et oubli, peut-être aussi le titre que vous auriez pu choisir pour l'autre livre que vous publiez en même temps, cette fois-ci au seuil de la collection de Maurice Hollander, La librairie du 21e siècle. Alors, finalement, vous l'avez intitulé Le carnet d'adresse, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Un singulier qui est un signe de modestie, parce qu'en fait, des carnets d'adresse, vous en avez beaucoup.
En fait, je me suis attaché à un carnet d'adresses particulier, celui en gros, de l'époque de mes débuts dans le cinéma. À l'époque, j'étais principalement cinéaste, à la fin des années 70, début des années 80. Et j'ai constaté beaucoup de choses en regardant ce vieux carnet d'adresses. D'abord, qu'il décrit une micro-société et une époque. Quand le feuilletant, les personnages qui y apparaissent ont des statuts très différents. Les uns sont morts. Il y a des pages entières, presque, de défunts. Donc, le carnet d'adresses prend presque l'aspect d'un cimetière. Il y a d'autres personnes qui ont changé de vie, qui sont parties à l'étranger. Il y a des gens que je n'ai pas réellement rencontrés, qui figurent dans le carnet d'adresses parce qu'un jour, on m'a donné leur adresse et le téléphone pour le cas où j'aurai un jour à les solliciter, à les rencontrer. Par exemple, j'ai toujours eu l'adresse de Gilles Deleuze, 1 rue de Bizerte, je m'en souviens. Je ne l'ai jamais rencontré, Gilles Deleuze, mais il était dans ce carnet d'adresses. Il y a des gens dont je ne me souviens plus du tout, des noms... dont je ne sais plus du tout pourquoi ils figurent là, qu'est-ce que j'ai pu faire avec eux, quelle était leur occupation. Donc un carnet d'adresse, c'est une tranche de vie, c'est une photographie d'un petit monde dont le seul absent est le propriétaire lui-même. Donc c'est en quelque sorte son négatif. Et dans la mesure où le propriétaire peut encore regarder ce vieux carnet d'adresse, ça veut dire qu'il est le survivant des autres. Parce que sinon... les autres seraient ceux qui pourraient venir à ses obsèques, à une époque donnée.
Mais le carnet d'adresse lui-même est le survivant d'une époque aujourd'hui pratiquement révolue.
Oui, tout à fait. Ce carnet d'adresse qui a en gros un peu, disons, une trentaine d'années, il ne me sert plus à rien. Je n'ai plus jamais à le consulter. C'est-à-dire que...
Tout est faux dedans.
Tout est faux. Plus rien ne correspond à ma vie d'aujourd'hui. Alors que ma vie est un continuum. Alors, on peut imaginer que dans d'autres destins, d'autres personnes, le carnet d'adresse reste valable. Il y a des gens qui ont une stabilité dans leur existence, qui vivent au même endroit, qui ne changent pas de métier, qui ont des relations familiales, amicales, qui perdurent tout au long de leur vie. Moi, ça n'a pas été mon cas, et je mesure, en regardant ce carnet d'adresse, l'instabilité de ma vie et son évolution et le fait que mes enjeux ont changé, je me suis déplacé, et puis il y a ce phénomène terrible des gens qui disparaissent.
C'est un drôle d'exercice de recopier chaque année son carnet d'adresses.
Oui, alors moi je ne le recopie pas chaque année, et je dis d'ailleurs quelque part dans ce petit livre que le carnet d'adresses, il est en général lié à l'agenda. L'agenda, pour moi, il est réellement l'objet d'un rite annuel. Chaque année, le nouvel agenda, c'est intéressant de l'ouvrir, enfin, de voir ce temps libre, ces pages blanches, ce nouveau temps qui s'ouvre et qui est offert, avec, selon les situations qu'on a vécues l'année précédente, le souhait que ça continue ou que ça change. On se dit, bon, cette année, j'espère que ça va continuer parce que l'année précédente a été bonne, ou il faut que ça change parce que ça n'a pas été une bonne année. Mais en tout cas, il y a ce temps libre, il y a ce rituel annuel. On est obligé de changer d'agenda tous les ans. Alors que le carnet d'adresses, il est sujet, soumis à un rythme un peu différent. Mais justement, le fait que c'est, je ne sais pas, tous les 5 ans ou tous les 6 ans ou tous les 8 ans ou tous les 10 ans, montre quel est le rythme de renouvellement du petit monde dont le propriétaire est le centre.
Parlons de l'organisation de ce livre, ce petit livre, comme vous dites, Alain Fleischer, mais qui en fait en comprend pratiquement 3. Il y a d'une part une longue étude sur le carnet d'adresses, donc qui est un peu l'histoire de votre carnet d'adresses et sa philosophie, puis des travaux pratiques, où vous prenez quelques pages du carnet d'adresses en développant les commentaires que chaque nom vous inspire. Et enfin, pour terminer le livre, une nouvelle.
Une fiction, oui. C'est un exercice que j'aime beaucoup, de mêler dans un même volume, dans un même livre, différents registres qui s'éclairent les uns les autres. Je l'ai fait souvent avec des essais que je complète par un fragment autobiographique ou par une fiction. C'est exactement le cas dans ce livre, où il y a ce petit essai, cette réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un carnet d'adresses. Qu'est-ce que ça raconte, quelle valeur ça a, de quoi ça témoigne, qu'est-ce que ça décrit. Bon. Après, je me suis en effet livré à l'exercice qui a consisté à prendre les 3 premières lettres, ABC, et à dire spontanément, sans faire de recherche, spontanément, ce que m'évoque chacun des noms qui apparaît à l'initiale de chacune de ces lettres. Et puis, très naturellement, arrive la fiction, en fait. Dans la mesure même où une bonne partie des personnages dont je parle, je les retrouve, je les reconstruis, parfois je les invente forcément, ou en tout cas je ne sais pas quoi dire d'eux, puisque je ne me souviens pas qui ils sont, il y a une sorte de glissement à travers l'autobiographie, puisque cette évocation elle a un caractère autobiographique, il y a un glissement de l'essai un peu abstrait à l'exemple autobiographique et à la fiction, puisque voilà, on est au bord de l'invention, de l'exercice où la mémoire devient de l'imagination. Donc la dernière partie est en effet une nouvelle dont l'accessoire principal, distributeur, je dirais presque, du récit est un carnet d'adresse, la circulation d'un carnet d'adresse.
Alors ça a commencé comme un jeu, cette histoire-là ?
Ça a commencé comme un jeu. En fait, ça a commencé au cours d'une soirée qui m'avait été consacrée au Centre Pompidou, où des amis étaient invités à parler de moi et où je devais leur faire un petit cadeau en retour. Et où j'avais évoqué cette relation au nom d'un carnet d'adresse. Et notamment au fait qu'il y a des personnes qu'on désigne, chacun d'entre nous, par leur prénom seulement. Soit parce qu'on ne connaît qu'un seul Dominique, ou qu'un seul Jean-Paul, ou qu'un seul Maurice. Et dans ce cas-là, ça devient Jean-Paul, Maurice, Dominique. Je ne parle que des hommes. Soit parce qu'on s'estime dans une telle relation d'intimité avec une personnalité célèbre que, par exemple, on ne disait pas Roland Barthes, mais Roland, pour ceux qui le connaissaient. Alors voilà, je parlais un peu de ça, je parlais de la présence de ces noms dans un carnet d'adresse. Et à l'issue de cette soirée, on m'a dit « Ah, mais c'est une très jolie idée, il faudrait que tu écrives ça ». Donc j'ai mis du temps, parce que cette soirée remonte à déjà 6 ou 7 ans. Et tout d'un coup, j'ai eu envie de le faire. Voilà.
Donc un jeu devient un exercice sérieux, mais vous ne saviez pas où vous mettiez les pieds, vous ne saviez pas où vous alliez. Est-ce que ce n'est pas toujours comme ça quand vous commencez un livre ?
C'est tout à fait comme ça, puisque je pars toujours d'un projet extrêmement sommaire. Et d'ailleurs, je réalise aujourd'hui parfois des projets de livres dont l'idée m'est venue il y a 30 ans, mais que je n'avais retenu ou noté que sous la forme de 2 lignes. Donc c'est l'écriture qui me fait découvrir le livre que j'ai à écrire. Je suis incapable de savoir où va me conduire un livre au moment où je commence. Je sais d'où je pars, de l'idée, mais je ne sais ni quels personnages vont arriver, ni ce qui va leur arriver. C'est vraiment dans l'écriture que je trouve le livre. J'ai parfois comparé ça à de l'archéologie, au travail de l'archéologue, qui voit affleurer quelque chose à la surface d'un site. C'est le signe qu'il y a quelque chose là-dessous. Il se dit, voilà, il faudra que je gratte là, parce qu'apparemment, il y a quelque chose. Mais tant qu'on ne gratte pas, on est incapable de dire ce qu'il y a. Ben pour moi, l'écriture, d'ailleurs que ce soit l'écriture autobiographique, quand je m'y suis livré assez rarement, mais encore plus celle de la fiction, a ce caractère-là. Il faut gratter, il faut écrire pour découvrir ce qu'on a à dire.
En attendant ses écrits sur le cinéma aux éditions Galade, 2 livres d'Alain Fléchère, Prolongation chez Gallimard et Le carnet d'adresse au seuil. Du jour au lendemain, Angélique Thibault, Éric Boisset, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.